culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Cécile et Dominique, bonjour.
Bonjour Bénédicte.
Justement, vous nous emmenez Dominique à Savenières. Ce petit bourg niché sur la rive droite de la Loire est aussi le berceau de monuments emblématiques. Son église, à l'architecture remarquable, parmi les plus anciennes de France, a fait l'objet dernièrement d'une restauration et de relevés archéologiques. Alors, que révèlent ces fouilles? C'est ce que vous allez nous dire avec votre invité Arnaud Rémy, qui est archéologue. Et puis, nous continuerons ensuite à Fontevraud. Vous nous proposez, Cécile, une sortie féerique et profonde, Noël à l'abbaye de Fontevraud. Et puis, tout de suite, nous commençons avec vous, Cécile. Qu'aurions-nous fait à sa place? Cette question, on peut se la poser fréquemment face aux événements, aux drames, mais c'est aussi le titre et le sujet d'une pièce de théâtre qui nous interpelle à partir d'une histoire vraie, celle de la résistante angevine Noëlla Rouget. On en parle avec Marie-Christine Garando de la compagnie L'Intemporel. Et on commence tout de suite avec vous, c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. Curiosité sous toutes ses coutures.
Qu'aurions-nous fait à sa place? Peut-on vraiment répondre à cette question, Cécile?
Eh bien, à mon avis, pas toujours, surtout quand on n'a pas vécu des drames. Mais c'est la question posée par la compagnie L'Intemporel dans la pièce de théâtre qui s'intitule justement « Qu'aurions-nous fait à sa place ?» Un sujet éternel, je n'ai pas osé dire intemporel, mais cruellement d'actualité. Marie-Christine Garando, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la créatrice de la compagnie de théâtre L'Intemporel. Vous êtes à l'initiative de cette pièce dans laquelle vous jouez. Elle raconte, comme on l'a dit rapidement en introduction, l'histoire vraie de Noëlla Rouget. C'est une résistante angevine déportée et qui, après la guerre, a demandé et obtenu la grâce de son bourreau. Une histoire quand même un petit peu hors norme. Alors, racontez-nous cette vie un peu particulière.
Alors, Noëlla Podo, pour dire son nom de jeune fille, qui était évidemment son nom de résistante. Elle a 20 ans quand elle s'oppose à ce qui lui semble intolérable, l'invasion nazie, tout simplement, puisque Angers était le premier centre de la Gestapo dans l'Ouest. Et donc, elle devient très vite résistante à ce réseau. Et elle connaît son jeune fiancé, qui est Adrien Tigeot, et c'est lui qui l'embarque dans la résistance. Lui se fera arrêter, malheureusement, et 3 mois après, fusillé. On le retrouve d'ailleurs sur la tombe de Belbeil, puisqu'il fait partie des 7 fusillés de Belbeil. Et elle est arrêtée, évidemment, puisqu'ils ont réussi à trouver sa piste, et elle est arrêtée chez elle. Voilà, en 43.
Par un dénommé Jacques Vasseur,
voilà,
qu'on appelle communément son bourreau.
Son bourreau, voilà, parce qu'elle le reconnaîtra très bien puisqu'il est venu l'arrêter chez elle.
Elle a été déportée.
Elle a été déportée.
Et elle a survécu.
Voilà, elle a survécu, elle en est revenue à 32 kilos. Elle pensait qu'elle allait mourir et elle a dit « je veux mourir à Angers ». Et puis, finalement, à Ravensbrück, elle était aussi avec Geneviève de Gaulle, qui a créé des maisons d'accueil en Suisse pour que les déportés se refassent une santé. Et donc, elle a vécu finalement 3 mois dans ces maisons d'accueil en Suisse. Et elle a survécu. Et elle a vécu jusqu'à 101 ans. Elle est morte à un mois de ses 101 ans en 2020.
Du Covid en plus, je crois, non?
Non, je crois
non.
Pas.
Ah,
non,
je croyais
non.
Avoir
non,
lu
non,
ça.
Non, non.
Alors, là où l'histoire est forte, c'est que donc Jacques Vasseur, son bourreau, a été arrêté. Il y a un procès, il est condamné à mort. Et Noëlla demande au général de Gaulle qu'il ne soit pas sa grâce.
Voilà.
Qu'elle obtient.
Alors,
Qu'est-ce qui a motivé Noëlla Rouget pour demander comme ça la grâce de quelqu'un qui l'avait détruite ?
Oui, alors, c'est tout simplement sa foi profonde. Elle est animée d'une foi profonde. Elle prie énormément parce que les prières sont pour elle quelque chose de salvateur et ça la raccroche à cette vie où elle va découvrir petit à petit la déshumanisation qui était très bien orchestrée par les nazis. Et donc, la foi, c'est tout simplement cette foi qui va la sauver. Et
pour ne pas répondre à la barbarie par la barbarie,
voilà.
C'est ça.
Et tout ce qui touche à l'intégrité physique et morale d'un être humain lui est absolument intolérable. Et comme elle l'a vécu, elle ne se sent pas le droit de demander aussi la mort de son bourreau, puisqu'elle deviendrait elle-même bourreau.
Et pourtant, Jacques Vasseur, avec lequel elle a correspondu, n'a jamais demandé pardon ni exprimé de regret.
Exactement. Jamais. Il n'a jamais. Elle a essayé d'obtenir, évidemment, ce peut-être pas le pardon, mais au moins manifester des regrets et puis revoir un peu dans ses yeux une petite flamme, comme elle dit, une petite lumière d'humanité. Ce qu'elle n'a jamais vu.
Jamais vu. Donc jamais. A-t-elle pardonné ? Pas sûr.
Elle ne le dit pas.
Elle dit
qu'on peut pardonner quand du mal a été fait à soi, mais pas à autrui. Bon, elle a vu beaucoup de ses amis partir. Elle ne prononce pas le mot pardon. On n'oublie pas. Pardonner, en tout cas, je ne l'ai lu nulle part dans le livre qui a été fait sur son autobiographie.
Alors, votre pièce ne fait pas que raconter cette histoire. Elle pose clairement la question, et c'est son titre, et elle interpelle le spectateur. Qu'aurions-nous fait à sa place ? Ça appelle aussi notre compréhension ou non de ce geste. Alors j'ai deux questions. Une première, son geste a-t-il été compris par les autres résistants, les autres déportés ? Et en deuxième plan, je vais voir comment réagissent les spectateurs quand vous posez clairement cette question en troisième partie.
Ouais.
Qu'aurions-nous fait ? Est-ce que nous aurions eu cet élan du cœur ?
Voilà, c'est très interpellant et moi-même la première qui a été interpellée par cette histoire. Est-ce que moi j'aurais demandé sa grâce au départ ? Probablement que non. je ne sais pas, c'est difficile de se resituer à ce moment-là. Mais en tout cas, les spectateurs sont vraiment interpellés, touchés, émus. Il y en a qui ressortent avec les larmes et il y en a qui nous ont dit « je suis rentrée d'une certaine façon, je ressors d'une autre ». Et ça, c'est très interpellant, effectivement. Et moi-même, fur et à mesure, plus on joue cette pièce, et en plus, bon, je lis énormément de livres et j'ai vu notamment une série qui est très bien faite, qui s'appelle Village français, et où on voit la collaboration aussi. On pourrait poser cette question-là. Parce que
si j'avais été... Aurais-je été un collaborateur aussi ?
Absolument.
Est-ce que la peur, l'envie...
Absolument.
La même question se pose, absolument.
Et je suis, moi, plus j'avance et plus je suis un peu déstabilisée aussi en disant « c'est un collabo ». Ok, mais il y a des collabos qui pouvaient être un peu moins dans la déshumanisation que d'autres. Je ne sais pas, en tout cas, si moi on m'avait mis un fusil sous le nez en disant « tu as une femme, un mari, un enfant, tu dois me donner 10 listes de gens qui doivent être tués parce qu'un officier allemand, vous l'avez assassiné », qu'est-ce que j'aurais fait ? Je ne sais pas ce que j'aurais fait, parce que c'est difficile de se mettre dans cette situation-là. Et donc, voilà, ça permet même dans ce questionnement d'adoucir nos pensées, je pense, vraiment.
Et nos jugements
et
face
aux autres. Et que, comme le dit aussi un autre déporté, je crois que c'est David Rousset qui le dit, il faut avoir été au cœur de la barbarie pour pouvoir parler de la barbarie.
Et savoir ce qu'elle, et ce qu'elle entraîne.
Et savoir ce qu'elle entraîne et ce qu'elle provoque. Et ça, c'est très juste. Donc, on ne peut pas se poser cette question-là 80 ans après, puisque nous sommes dans les 80 ans, là.
Donc, c'est vraiment un message d'humanisme, quand même, oui. que vous essayez de faire passer au travers de cette pièce et de cette question.
C'est plus qu'un spectacle, en fait. Et je crois que moi, j'ai été un peu guidée pour mettre ce spectacle en place, pour me dire, mais il y a un message très, très fort. Et dans notre monde actuel, qui est tellement mis à mal, je me dis, c'est pas pour rien que l'on fait ce spectacle, parce que ce spectacle a une résonance incroyable.
Ça a une résonance avec ces périodes d'attentats, de troubles,
absolument,
de guerres
que
nous vivons actuellement, où effectivement, c'est pour ça que c'est un sujet finalement malheureusement éternel,
malheureusement,
ou intemporel.
Voilà. Et notre but est évidemment aussi d'aller le jouer, de le donner, parce que j'aime pas le mot jouer là. On joue la comédie, mais on joue pas ce spectacle-là, on l'incarne, mais d'aller le donner pour des lycéens, des collégiens, je me bats pour ça, pour trouver les portes qui s'ouvrent.
Marie-Christine Garando, rapidement, vous avez joué au Festival Off d'Avignon. Vous voulez y retourner cette année, donc je crois que vous avez un petit appel à faire, parce que ça coûte très cher d'aller au Festival d'Avignon.
Et oui, quand on fait les sous, quand on se met à sa table et qu'on fait vraiment ce dont on a besoin, eh bien, on a besoin de 20 000 euros. Or, comme nous sommes partis de zéro, hein, finalement, après le Covid, tout a été mis très à mal. Donc, à chaque fois, on a besoin de petits sous. Les petits sous font les grandes tirelires, on va dire, et ce qui nous permettrait d'y retourner, parce qu'on a beaucoup de succès aussi là-bas. Et ma foi, c'est là-bas que viennent nous chercher les programmateurs de toute la France.
Si on veut que votre message d'humanisme soit diffusé partout.
Voilà.
Vous avez quelques actualités.
Voilà, alors qu'aurions-nous fait à sa place le 15 janvier 2026 ? Ce sera salle Claude Chabrol à Angers à 20h. Une autre pièce aussi, c'est Fugueuse, le 30 décembre à 20h. Et puis le 31 aussi décembre à 17h30 et 20h, toujours salle Claude Chabrol.
Oui.
Marie-Christine Garando, merci. Tous les renseignements sur le site de la compagnie l'intemporel.com.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Alors on continue, on va faire une petite pause musicale avec Colline Rio et on écoute sa chanson « Elle laisse ». Et puis on...
Elle laisse au hasard les rêves, les chimères abîmées. Laisse le brouillard, la pluie et le goudron mouillé. La nuit est grande comme ses yeux.
Cécile, on se prépare à Noël, loin de l'effervescence commerciale.
Et oui, je vous emmène à l'abbaye de Fontevraud pour cette nouvelle édition de Noël à Fontevraud. Cette année encore, des artistes en résidence ont investi les lieux avec des créations inspirantes et féeriques. Alors tout d'abord dans l'abbatiale, c'est une équipe napolitaine qui a créé une très impressionnante crèche dans la pure tradition du sud de l'Italie. Il y a des personnages sacrés évidemment, c'est une crèche mais aussi profane. Les enfants pourront s'amuser à trouver les métiers, donc il y a le boulanger, la prostituée, le maréchal Ferrand, ou encore repérer Robert d'Arbrissel, le fondateur de l'abbaye, ou Aliénor d'Aquitaine. Quand vous arrivez dans le cloître, là, vous découvrez une immense lune peinte qui invite à la contemplation en écoutant le délicat son des cloches. Alors le délicat, parce que ce n'est pas le son des vraies cloches de Fontevraud, c'est une petite musique qui reprend le son des cloches. Dans le grand réfectoire, une immense table de fête, c'est très ludique et très joyeux, coloré, plein de sensations, c'est à voir, à écouter, à sentir. Quand j'y suis passée, tout le monde tournait autour, courait, essayait tous les stands. C'est, voilà, ça éveille vraiment la curiosité et ça plaît en fait aux grands et aux petits parce que les adultes s'amusaient tout autant avec les couronnes, etc. Vous avez enfin dans les cuisines de très belles céramiques contemporaines. Et une petite pièce dans laquelle il y a une animation en trois dimensions sur l'histoire de Fontevraud. Alors j'avoue que j'ai été vraiment séduite par ce Noël à Fontevraud. C'est beau, c'est magique et en même temps assez profond. Les artistes se sont tous inspirés de l'âme des lieux où ils ont fait référence. Alors on n'est pas dans l'ambiance, odeur de graillon, consommation à outrance et chinoiserie. Et ça fait vraiment du bien. Je vous conseille d'arriver plutôt à Fontevraud un peu avant la tombée de la nuit pour profiter de la fin de la visite. Tout est un peu plus magique avec les lumières qui illuminent l'abbaye. Et si vous arrivez tôt, évidemment, passez par le musée qui est toujours extraordinaire. Vous trouverez tous les renseignements sur le site de l'abbaye de Fontevraud.
Merci Cécile. Alors on continue avec vous Dominique sur Savenière et son église et avec votre invité Arnaud Rémy qui est archéologue, une des plus jolies églises du département et elle vient de livrer des secrets.
Oui, l'église de Savenière se situe au cœur du village. On est au croisement de la route qui longe la rive droite de la Loire et de la route nord-sud qui vient du Segréen pour aller vers les Mauges. Au premier abord, on semble bien être en présence d'un édifice roman, notamment avec son chevet semi-circulaire, son clocher carré, puis agrandi au nord par un bas-côté gothique. Mais on est quand même très vite intrigué par les façades de la nef, avec cette mixité de moellons de roches locales et de briques ordonnancées en grandes bandes horizontales. C'est à la fois très efficace au plan technique, mais aussi très décoratif. Cette nef était traditionnellement datée par les historiens du Xe siècle, avec certes une forte incertitude. Mais il y a quelques mois, en préalable d'une restauration de ses façades, des sondages archéologiques ont été menés par la Conservation départementale du patrimoine. Et c'est sous votre direction, Arnaud Rémy, bonjour.
Bonjour.
Sous votre direction que ce chantier a été mené. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Campus. Comment est-ce qu'une équipe d'archéologues s'intègre dans le processus d'un grand chantier de restauration d'un édifice aussi prestigieux? Comment est-ce qu'on arrive?
Eh ben, on arrive avec la prescription de la DRAC.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Exactement, qui dispose d'un organe qui s'appelle le Service Régional d'Archéologie. Et on ne peut pas faire d'archéologie en France, on ne peut pas creuser dans son jardin, on ne peut pas faire de prospection, on ne peut rien faire en archéologie sans une autorisation du Service Régional d'Archéologie. Et donc, les travaux étant prévus de longue date sur cet édifice, qui est un site archéologique en soi, pas seulement le sous-sol, mais les élévations aussi, le Service Régional d'Archéologie, qui travaille avec le service des monuments historiques, a demandé à ce qu'il y ait une étude archéologique accompagnant les travaux de restauration.
Donc vous êtes au plan départemental, le relais du service régional.
Voilà, on est un opérateur d'archéologie préventive.
Opérateur, effectivement, puisque vous êtes des hommes de terrain.
Voilà, au même titre que l'INRAP ou d'autres qui auraient pu répondre à l'appel d'offres, puisqu'il y a un appel d'offres demandé par la mairie. Voilà.
Bon, c'était évidemment une très très grande chance et une joie sûrement pour vous d'aller sur un site qui potentiellement devait révéler des histoires extraordinaires.
Oui, en prenant la responsabilité de ce chantier, je ne pensais pas un jour avoir cet honneur. D'autant que j'ai de nombreux collègues, des géologues, d'autres archéologues qui se sont intéressés à cette église sans arriver forcément très loin. Et moi, j'arrive au bout de cette histoire avec toute une équipe.
Oui, je disais, il y avait une grande incertitude sur la datation de cette nef. c'était quand même le moment idéal pour en découdre et pour avoir quelques certitudes.
La grande chance qu'on a, c'est qu'il y a des nouvelles méthodes de datation qui arrivent et qui ont été applicables à cette église. J'avais rencontré en 2018, c'est l'année où j'ai fait le diagnostic archéologique pour cette église, en préalable aux travaux. Oui. Donc juste un sondage dans le cœur et puis un premier regard sur les élévations pour voir qu'est-ce qui restait après les restaurations du 19e siècle, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on allait pouvoir étudier. Et 2018, c'est aussi l'année où j'ai rencontré Petra Urbanova, qui faisait une communication à un colloque à Auxerre, sur la méthode de datation qu'elle avait mise au point pour dater le mortier, la dernière exposition à la lumière du sable du mortier.
Alors, comment est-ce que scientifiquement vous décriveriez ces maçonneries si particulières ? Je parlais tout à l'heure de moellons de roches locales et de briques. Comment est-ce que scientifiquement on peut les décrire ?
En fait, chaque maçonnerie a un peu sa personnalité. Alors, le terme un peu usuel, ça va être le petit appareil.
Oui.
Petit appareil, ça veut dire des blocs qui tiennent dans une main, qui font à peu près 10 cm de côté. Donc ça, c'est... il faut que ce soit quand même régulier et assisé pour qu'on puisse... assisé, ça veut dire en rangée horizontale, pour qu'on puisse appeler ça du petit appareil. Mais en fait, il y a une multitude de variantes. Ça peut être extrêmement régulier ou aller vers le moellon tout venant. Et il n'y a pas de limite très franche, quoi. Donc petit appareil, mixte pour dire qu'il y a des briques qui sont associées à cette
Alors le format de ces briques, par exemple, c'est...
Le format des briques, c'est 38 par 29 cm.
Oui, et quelle épaisseur ?
On est dans les 4 cm.
Est-ce que ça c'est une référence, la référence à une période de l'histoire de l'architecture ?
Oui, alors là, elles ont un module de briques typique de la fin de l'Antiquité, avec une poignée, c'est-à-dire une petite encoche qui est faite sur une des faces. Après, il y en a beaucoup qui sont cassés, notamment dans... Vous avez parlé de ces bandeaux de briques là, qui sont remarquables, qui sont... Donc on a une rangée de briques horizontales, une deuxième, et après on a des rangées qui sont posées en épis, en arêtes de poisson, en feuilles de fougère, enfin il y a plein d'expressions. Et ces briques là qui sont en épis, elles sont toutes cassées.
D'accord. Et a priori, elles auraient été confectionnées à quel endroit, ces briques ?
Dans la région. Il y a un...
Alors, qu'est-ce que vous entendez par région ? 10, 20, 30 kilomètres ?
C'est ça.
Elles viennent des Rairies ou plutôt des Mauges ? Plutôt du Choletais ?
Entre les deux.
Entre les deux.
Ouais. Y a un étudiant qui a fait des études... Bref, de pétrographie de ces briques, minéralogiques et chimiques de la composition, et ils retrouvent des éléments qui peuvent potentiellement venir de cette région-là, rive nord de la Loire, entre Angers et puis la limite du Maine-et-Loire.
D'accord, ouais,
et c'est les mêmes éléments qu'on trouve dans plein de briques antiques du coin. Alors, on ne connaît pas la Tuilerie, mais on est dans la région d'Angers... on ne va pas jusqu'aux Rairies et on ne va pas non plus dans le sud des Mauges. Bon.
Donc c'est quoi ? C'est une vingtaine de kilomètres maximum.
De rayon.
Alors on connaissait depuis très longtemps ce qu'on appelle la dendrochronologie. Ça, c'est la manière de dater les ouvrages en bois. Mais en réalité, à Savenières, c'est plutôt vers les maçonneries que vous avez porté vos investigations. Alors, c'est vers la brique, c'est vers les moellons ou c'est vers le mortier qui assemble l'un et l'autre ?
Alors, les moellons, on n'aurait rien à dater.
D'accord.
On obtiendrait une période géologique. On a daté les deux, en fait, les briques et le mortier. Mmh. On s'est servi également de la dendrochronologie, mais ça concerne des phases beaucoup plus tardives, puisqu'on n'a pas de charpente qui date d'aussi longtemps. Donc on a daté les briques avec les briques on peut dater la cuisson, donc ça c'est une méthode qu'on connaît depuis assez longtemps, ça s'appelle la thermoluminescence.
D'accord. Ouais,
ça a été mis au point dans les années 50-60 et c'est assez courant. Donc on peut dater la cuisson des briques. Le problème, c'est que des briques, on peut les mettre en œuvre dans une construction
et les réutiliser
dans une autre plusieurs siècles après. Donc là, la question n'est pas tranchée pour Savenière. C'est des briques à la mode antique, mais elles peuvent très bien avoir été fabriquées pour ce site.
On a pu démonter la muraille gallo-romaine d'Angers pour les transporter à Savenière.
Par exemple, c'est une idée de scénario. Oui. Voilà.
Alors, comment est-ce qu'on analyse le mortier ? Alors, pour le coup, on ne déménage pas les mortiers. Quand on démonte une maçonnerie, on casse tout. On ne récupère pas le mortier. Et là, ça permet donc une datation, j'imagine, assez précise.
Alors, ouais,
fiable surtout.
Pour le mortier, il y a plusieurs méthodes, encore une fois, qui sont connues. La plus ancienne technique qui est utilisée pour dater les constructions, c'est de trouver des charbons de bois dans ce mortier. Un charbon de bois, c'est assez fragile. Si on marche dessus, on l'écrase, il n'existe plus. Et donc, s'il se retrouve dans le mortier, c'est qu'il a traîné dans l'endroit du chantier. Soit il a été intégré volontairement, soit il est tombé par accident dans la bauge à mortier. On peut dater les charbons avec le carbone 14 assez facilement. Sauf que là, à l'église de Savenière, on en a trouvé trois tout petits bouts, dont un qui était presque de la poussière, donc qui n'a pas été datable, le deuxième encore trop petit, et on a eu seulement une seule date avec le charbon. Et c'est pas suffisant pour être sûr de la datation. Et donc on a eu recours à une autre méthode qui était toute neuve, celle dont je vous parlais tout à l'heure, mise au point par Petra Urbanova. Et là c'est un peu le même système que pour les briques. C'est la luminescence optiquement stimulée, OSL en anglais. Donc thermoluminescence pour les briques, mais c'est en fait la même méthode, sauf qu'on ne va pas dater la dernière exposition à la chaleur des grains de sable, on va dater leur dernière exposition à la lumière, parce que la lumière et la chaleur, ça produit le même effet dessus.
D'accord, oui.
Et donc le dernier moment où les grains de sable utilisés dans le mortier ont vu la lumière, c'était juste avant la construction.
Ils sont restés depuis dans
le cœur du mur, quoi.
Alors, à l'issue de toutes ces investigations, est-ce qu'enfin on peut donner une date à peu près précise pour la construction de ces façades, notamment la façade sud et puis le pignon ouest ?
Oui. Est-ce
qu'on peut arrêter une date aussi précise qu'on le fait en dendrochronologie, par exemple ?
Alors non.
Non.
Jamais.
Non. Parce qu'en dendrochronologie, on date à l'année près, on est d'accord ?
On date à l'année près, à condition d'avoir le dernier cerne formé par l'arbre.
Bien sûr.
Juste sous l'écorce.
Bien sûr.
Sinon, il faut faire des approximations.
Oui.
Donc là, avec le carbone 14, on a souvent, pour cette période-là, on a une marge d'erreur d'à peu près 150-200 ans.
Oui.
Avec l'OSL, on arrive à peu près à la même chose. Mais ce qui est génial pour cette église, c'est que toutes les datations qu'on a faites sur les briques, sur le mortier et sur le charbon concordent. Tout tombe dans la même zone.
Oui.
Et donc, si on mixe tout en même temps, on arrive à 362-519 après Jésus-Christ.
362, oui. Donc
la fin du 4e siècle, on couvre tout le 5e siècle et puis le début du 6e.
C'est une révélation extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres édifices locaux qui peuvent s'apparenter à cette construction de l'église de Savenière ? Dans l'Anjou en général ?
Hors
les constructions gallo-romaines, évidemment.
L'église de Savenière est-elle une construction gallo-romaine ? En fait, au 5e siècle, on vit dans une société qui, pour les contemporains, est la même que celle du 4e siècle.
C'est le début de la christianisation de la Gaule, quand même.
C'est le début de la christianisation de la Gaule. Elle a commencé au
4e. L'époque antique est terminée, quand même.
Pour les contemporains, en fait, le fond de leur vie n'a pas vraiment changé. Il continue d'y avoir une administration, il continue d'y avoir des jeux du cirque, il continue d'y avoir plein de traits culturels qu'on peut penser antiques, si ce n'est que, effectivement, les villes se sont condensées derrière des murailles et le christianisme gagne dans la société.
Mais quand même, on peut dire qu'à l'origine de la construction de l'église de Savenière, c'était à des fins religieuses.
Oui.
D'accord.
Alors, on n'a pas non plus de preuves absolues de ça. Oui, ça pourrait être un édifice civil ou autre, mais le fait qu'on ait des tombes en sarcophage tout autour, que ce soit une église dès les premières attestations, qu'elle ait une architecture orientée, vraiment adaptée à ça, qu'il n'y ait jamais d'autres mentions d'une autre église à Savenière. Enfin, si, il y en a deux autres, mais qui sont par ailleurs suffisamment renseignées pour qu'on sache que ce n'est pas celle-là. Bref, c'est assez peu probable que ce soit autre chose au moment de sa construction qu'une église.
Alors Arnaud Rémy, est-ce qu'on peut faire un...
Dominique, il va falloir conclure.
Oui. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec le baptistère de Poitiers, par exemple? Est-ce
oui.
qu'on est dans la même époque?
Alors, le baptistère de Poitiers, on a aussi plein de phases qui se superposent. Et la phase du 6e siècle du baptistère de Poitiers, il en reste assez peu. La majeure partie de l'architecture de ce baptistère, elle est du 7e siècle. Enfin, toute la partie
oui.
décorée du dessus. Non. Donc, c'est en ça que l'église de Savenières, qui est conservée presque jusqu'au sommet de ses élévations, qui permet de reconstituer quasiment une église du 5e siècle du sol jusqu'au toit, c'est assez extraordinaire.
Alors, juste pour dernière question, pour ne pas déborder sur le temps qui nous est imparti,
c'est ça.
Quel est le coût de ces investigations archéologiques? Est-ce qu'on va pouvoir généraliser ces opérations à d'autres chantiers, ou est-ce que ça reste vraiment une intervention tout à fait exceptionnelle?
Ça reste assez exceptionnel. Là, le budget datation, il représente plus du tiers du budget archéologique. Enfin, c'est
oui.
en gros, on a tout mis dans la datation.
Et par rapport au chantier global, y compris restauration, la phase archéologique, ça représente quel pourcentage
Je ne sais plus. J'ai pas envie de vous dire de bêtises.
D'accord. Bon. Mais donc, c'est vraiment un travail de très longue haleine, un temps précieux de scientifiques, et donc on ne pourra pas malheureusement généraliser ces investigations à tous les chantiers de la région.
Les méthodes de datation, elles sont connues, elles commencent à être appliquées un peu partout, mais évidemment, il faut que ça vaille la peine pour qu'on se lance dedans, quoi.
Merci Dominique, Arnaud Rémy, merci de nous avoir fait découvrir l'histoire de cette église de Savenières. C'est donc la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci aussi à Elliot et Maxime pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h, ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.